C'est une terre rude et gigantesque, encore trop méconnue. Le Kazakhstan déroule son immensité entre Europe et Asie et doit sa modeste renommée à ses figures historiques, cavaliers des steppes aux appétits de conquête, Attila et Gengis Khan. Le Kazakhstan a pourtant aussi une histoire chrétienne, aussi ancienne que féconde. Le père Grégor Prichotko est vicaire à la cathédrale de Pontoise, au nord de Paris. D'origine kazakh, il est né à Karaganda, en plein cœur du pays, là où la première église kazakh fut élevée.
Les premiers chrétiens apparaissent dans ce pays déjà au IIIe siècle. Et c'est un des encyclopédistes de Moyen-Âge qui nous rapporte cette information précieuse, qui effectivement dit qu'il y avait des chrétiens déjà 200 ans après le Christ dans ce pays. Par la suite, après le concile de Chalcédoine, il y avait beaucoup de chrétiens de la mouvance nestorienne qui étaient exilés par l'empereur. Donc qui était pourchassé puisque nestorianisme comme hérésie était condamné. Ils se sont retrouvés en Cilicie-Ctésiphon, disons sur le territoire d'Iran actuel. Et un des premiers nestoriens qui franchit au début du 8e siècle l'espace de l'Asie centrale, c'était un certain moine Alopen, qui apporte les éléments de la foi chrétienne à la Chine du Nord et, si on peut dire ainsi, au Kazakhstan du Sud. Cette église nestorienne se développe avec une grande envergure parce qu'il y avait à peu près 25 métropolites. Mais par contre, cette église commence à avoir une certaine décadence vers la fin du XIIIe siècle. Et c'est là justement où commencent les missions latines de Moyen-Âge. Les pontifes successifs, à partir de pratiquement de 1204, 1254, envoient les missions, les ambassadeurs qui sont nommés pour la première fois dans l'histoire de l'église Nuncii Nostri. C'est d'où vient l'institution actuelle des représentants de Saint-Siège à travers le monde. Ces envoyés, bien souvent, ils portaient au souverain des steppes deux choses, des cadeaux les plus précieux de la part donc du monde chrétien, c'était l'évangile et la croix. Malheureusement, à la conversion d'une certaine partie des chefs des États qui se trouvaient après la division de l'empire de Genghis Khan, à sa mort, l'empire était divisé entre ses fils. Et par la suite, donc, il y avait les dynasties qui étaient plus ou moins favorables au christianisme. Il faut dire que Genghis Khan lui-même était bien favorable, même surtout par rapport aux franciscains qui développaient leur mission sur les routes de la soie. Par la suite, malheureusement, la dynastie change. Et le nouveau Khan, qui s'appelait Ali Soldan, il est un musulman très farouche, donc... Il y a une seule possibilité d'existence désormais pour tout le peuple, soit se convertir à l'islam, soit accepter donc la mort. C'est comme cela que l'avant-dernier évêque de ces territoires, qui s'appelait Richard de Bourgogne, trouve sa mort entouré de ses compagnons, quelques religieux franciscains. Ce sont les premiers martyrs de l'histoire de l'Église au Kazakhstan.
Cinq siècles après ses premiers martyrs, la terre de ces grandes steppes sera de nouveau ensanglantée par les persécutions staliniennes.
Effectivement, le pays qui se retrouvait comme une grande poubelle en quelque sorte de régime communiste a accueilli plusieurs ethnies des peuples entiers qui étaient déportés à partir de 1938 jusqu'à la mort de Staline, pratiquement en 1953. Et les camps qui étaient construits pendant ce temps-là, notamment le plus grand camp du Kazakhstan qu'on appelle Karlag, couvrait un territoire plus grand que celui de la France. Il y a plusieurs chrétiens, parmi lesquels il y avait des évêques, des prêtres, des religieux, et cette foi se transmettait dans les familles surtout. Surtout dans les familles, puisqu'il n'y avait aucune possibilité de l'expression religieuse, quoi qu'elle soit. Bien sûr, avec Perestroïka, c'était un vent un petit peu plus frais qui est arrivé, et puis la première église à l'époque était ouverte sous l'autorisation de Brejnev, ouverte à Karaganda, rassemble une petite baraque en briques toute petite. Les gens devaient creuser pour amplifier l'espace, mais ils ont donné vraiment de tout leur cœur et de tous leurs moyens du temps et de leurs biens propres pour faire une des plus belles églises du Kazakhstan actuel, où reposent effectivement quelques témoins actuellement de cette époque des persécutions, notamment le père Ladislas Bukovinski, qui était en fait un ami de Karol Wojtyla, qui s'est retrouvé dans les steppes de l'Asie centrale et qui est resté volontairement pour s'occuper de cette communauté clandestine à l'époque soviétique.
Karol Wojtyla, qui une fois pape, ira au Kazakhstan en 2001, une visite qui laisse une empreinte durable sur le pays.
La visite du pape était considérée par les représentants d'autres confessions, et bien sûr par l'Église elle-même, comme une bénédiction du ciel, parce que les Kazakhs, donc le peuple kazakh, qui est très 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 sensible à tout ce qui concerne les personnes âgées, les sages, qui est un peuple accueillant, qui devait accueillir tous ces ethnies qui étaient déportées autrefois. Donc ce peuple kazakh accueillait Jean-Paul II comme quelqu'un qui un sage qui vient bénir leur pays. Et je dirais que l'image d'un vieillard sage, souffrant, ils voyaient le pape comme membre de leur famille humaine, quelqu'un qui ressent les mêmes préoccupations, quelqu'un qui vient pour bénir ce pays qui a accueilli 153 ethnies différentes et 42 confessions qui sont présentes actuellement au Kazakhstan.
Le Kazakhstan est aujourd'hui l'un des théâtres méconnus du dialogue interreligieux dans le monde.
Il y a une initiative très intéressante d'ailleurs dont on parle pas beaucoup, c'est le congrès des représentants des religions mondiales et traditionnelles. D'ailleurs, c'est le président du Kazakhstan, Monsieur Nazarbayev, qui en était l'initiateur. Il rassemble tous les 3 ans les représentants de différentes religions mondiales et traditionnelles pour discuter autour d'une table ronde des problèmes actuels, sans se voiler la face, soit ce extrémisme religieux ou les persécutions ou autre chose, pour pouvoir établir un dialogue, puisque le Kazakhstan, qui est la cheville entre l'Europe et l'Asie, était le seul pays où, après la chute de l'Union soviétique, il n'y avait pas de tension entre les peuples sur la base religieuse ou ethnique. Donc, pour maintenir cette paix et concorde, pour pouvoir dialoguer ensemble, je crois que l'expérience de Kazakhstan est très intéressante. Et c'est d'ici que le pape Jean-Paul II a lancé l'appel à la paix. C'était un moment tragique, juste un mois après l'écroulement des 2 tours jumelles à New York. Donc Jean-Paul II a appelé de ce pays qui est en quelque sorte une image de la paix. Разбойников живут пути.